CDI Podcast.
Entrepreneur de légende.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur de légende. Je suis Mickaël Icard, journaliste reporter pour CDI Média et je suis en compagnie de Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès et auteur de la série de livres Entrepreneur de légende. Bonjour Sylvain.
Salut Mickaël.
Comment tu vas?
Super, et toi?
Bah ça va super bien. Alors aujourd'hui, plus qu'une société, on va parler de la création d'un concept de distribution, le hard discount. C'est les frères Albrecht qui en sont à l'origine dans une Allemagne qui était complètement décimée par la guerre. Alors, allons à la découverte de la création des magasins Aldi.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.
Alors Sylvain, les frères Karl et Theo Albrecht sont nés en 1920 et 1922 respectivement.
Oui, en effet. Donc, ils sont nés à Essen, donc dans la Ruhr, une ville industrielle de la Ruhr, dans une famille modeste. Donc, le père est un ancien boulanger devenu mineur, et la mère a une petite épicerie alimentaire qui, on va le voir, sera très importante pour la suite, et qui est une petite échoppe très modeste qui peine à survivre, puisque on est dans les années 20, hein, c'est des années d'hyperinflation qui font suite à la Première Guerre mondiale, donc c'est un contexte économique qui est très difficile. Donc c'est une famille modeste, traditionnaliste, religieuse, on a le culte du travail, de l'effort, et donc les deux frères grandissent dans cet environnement.
Et du coup, ils apprennent un peu le futur métier qu'ils auront, oui, dans la boutique familiale.
Voilà, parce que en dehors de l'école, donc c'est des élèves, bon, ils sont scolarisés bien sûr, mais c'est des élèves assez moyens, disons, ils n'ont pas du tout d'appétence particulière pour les choses intellectuelles ou pour les études. Ils font de ce qu'on appellerait aujourd'hui une sorte de bac pro commerce, quelque chose comme ça. Et donc sur leur temps libre, hein, le soir, le week-end, les vacances, ils aident leur mère dans la boutique familiale, dans cette espèce d'épicerie. Et donc bien sûr, ils apprennent sur le tas le métier de commerçant et en fait leur futur métier.
Parce qu'ils n'ont pas envie de devenir mineurs comme leur père.
Voilà, l'alternative, c'est d'aller travailler à la mine ou dans la sidérurgie, qui sont des métiers dangereux, pénibles, mal payés. Donc bien sûr, pour eux, le commerce, c'est, même si, encore une fois, c'est des années très difficiles, c'est une toute petite boutique, ça leur semble quand même préférable, donc ils pensent plutôt s'orienter dans cette voie.
Il faut savoir, on va l'entendre plusieurs fois tout le long de ce podcast, qu'il existe très peu d'infos quand même sur eux, parce que c'est des entrepreneurs qui sont restés relativement discrets sur leur passé.
Oui, alors c'est des entrepreneurs discrets de par leur caractère, hein, c'est des personnalités très, 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 très réservées, et on va le voir, il y a eu un enlèvement d'un des deux frères dans les années 70 qui font qu'ils sont devenus, on a presque envie de dire paranoïaques, et ils ont vraiment verrouillé leur communication, leur image, il y a très peu de photos d'eux qui circulent, en fait assez peu d'informations comme tu l'as dit, et donc bon, on connaît les grandes lignes de leur parcours, mais on connaît assez peu les détails de leur personnalité et de leur vie privée.
En tout cas, ce qu'il arrive assez rapidement en Allemagne, en Europe et dans le monde, c'est la Deuxième Guerre mondiale.
Voilà, donc les deux frères sont mobilisés dans l'armée. L'un en Russie, où il est blessé, un autre en Afrique du Nord. Tous les deux sont faits prisonniers, mais tous les deux survivent à la guerre et donc reviennent à Essen en 1945. Et donc leur avenir professionnel, on l'a dit, s'oriente plutôt dans le commerce. Et ils vont reprendre cette petite épicerie familiale et se lancer dans le commerce alimentaire.
Et rapidement, ils vont avoir une idée qui va révolutionner le monde de la distribution.
Oui, donc on est dans les années d'après-guerre. Hein, l'Allemagne, c'est un pays ravagé. Alors leur boutique n'a pas été détruite par les bombardements.
Hein, ils ont eu de la chance.
Voilà, ils ont eu de la chance, ce qui leur permet de rebondir plus facilement. Et bien sûr, les gens sont à l'époque très pauvres. Hein. On voit aujourd'hui l'Allemagne comme un pays prospère, mais à l'époque, c'était un pays ravagé et pauvre. Et donc, leur idée, c'est de casser les prix. C'est-à-dire, nos clients ont peu d'argent, donc il faut qu'on leur propose les produits les moins chers possibles. Et ce qu'ils vont faire notamment, c'est qu'ils vont réduire drastiquement le choix, en fait la gamme de produits, pour proposer juste quelques produits, ce qui permet d'acheter en gros, donc d'avoir des prix d'approvisionnement moins chers, et ce qui permet aussi d'avoir moins de déplacements des vendeurs, hein, puisqu'il faut bien rappeler qu'on est encore dans un système de vente de magasins traditionnels.
Il n'y a pas de supermarché,
il n'y a pas encore le supermarché, c'est-à-dire qu'on rentre dans une boutique, il y a un comptoir, et le vendeur, la vendeuse, on lui désigne produits, je voudrais ça, ça et ça, il va les chercher, il nous les apporte. C'est un peu comme à la boulangerie, en fait. Hein, le... Il n'y a pas encore les supermarchés. Donc, en réduisant le nombre de produits, on réduit aussi les déplacements des vendeurs pour aller chercher les produits, on gagne du temps, et donc, ça permet de réduire les coûts. Donc, ils partent dès le début sur une stratégie de casser les coûts qui va être leur marque de fabrique, en fait.
Donc, ils inventent le hard discount.
Oui, donc ils inventent une sorte d'embryon de hard discount qu'ils vont perfectionner par la suite avec les supermarchés, mais c'est effectivement, on les considère comme les inventeurs du hard discount, et dès le début, c'est vraiment le créneau qu'ils prennent. Peu importe que le magasin soit joli, peu importe que la vendeuse ait un beau sourire, peu importe tout ça, tout ce qu'on veut, c'est les prix les plus bas possibles.
Et ça marche.
Ben, ça marche très bien parce que ça correspond exactement aux attentes de la population. Donc, ils avaient leur première épicerie et ils en ouvrent d'autres au fil des années 50 jusqu'à en fait être à la tête de plusieurs centaines d'épiceries à travers toute l'Allemagne.
Il faut savoir que ça marche aussi parce qu'il y a une vraie baisse du prix, mais ils essayent de ne pas trop perdre en qualité sur les produits.
Oui, voilà, on coupe tout le superflu, on va dire, mais la qualité, alors ce n'est pas forcément du haut de gamme, bien sûr, mais ils essaient de maintenir, on va dire, un seuil de qualité, donc quand même proposer, c'est principalement des produits alimentaires, hein, quand même proposer des produits de qualité, on va dire, acceptable.
Donc, tu l'as dit, début des années 60, ils sont à la tête de vraiment plusieurs dizaines de magasins, enfin de petites échoppes boutiques Albrecht. Et il arrive des États-Unis un nouveau concept, c'est le supermarché.
Voilà, donc le supermarché, donc comme on l'a dit, hein, c'est plus la boutique où on est servi par la vendeuse, mais où on se sert soi-même avec son caddie et on passe en caisse. Alors aujourd'hui, ça nous semble tellement naturel qu'on n'imagine pas faire autrement, mais en fait, c'est une invention américaine qui a commencé à bourgeonner dans les années 30 et qui va se répandre en Europe au début des années 60. Donc en 62, ils ouvrent leur premier supermarché qu'ils appellent Aldi, donc Albrecht Discount.
Et donc, ah oui, donc dès le début, il y a le mot discount quand même dans le nom de la marque.
Voilà, même si Aldi, on n'y pense pas forcément, mais c'est le début de leur nom et c'est le début de discount. Et la contraction fait Aldi. Et donc c'est vraiment là qu'ils vont déployer leur vision du hard discount qu'on connaît aujourd'hui. Les premiers supermarchés Aldi sont en fait assez semblables, c'était il y a bientôt 60 ans, mais c'est assez semblable à ceux qui existent aujourd'hui. Donc des gammes de produits réduites. Et en fait, on coupe absolument tous les coûts. Donc, par exemple, il n'y a pas de musique, parce que la musique, il faut payer les droits d'auteur. On met les produits directement dans des cartons plutôt que de les sortir.
Oui, ils sont sur des palettes.
Sur des palettes, voilà, directement à même la palette. On ne met pas les produits sur. Les prix, pardon, sur les produits, mais sur une pancarte au-dessus pour éviter des étiquetages. Voilà. On met. Ensuite, ils ont mis plein de codes barres sur les produits dans tous les sens pour que ça passe plus vite en caisse. D'ailleurs, on fait la queue en caisse parce qu'ils réduisent le nombre de caissières.
Les horaires de magasins sont réduites.
Les horaires des magasins sont réduites pour limiter les coûts. La taille des magasins est réduite et limitée aussi parce que la structure coût optimale d'un supermarché, c'est de ne pas avoir un supermarché trop grand ni trop petit. C'est en fait la taille d'un Aldi aujourd'hui. Hein. Ils ont calculé ça, ils ont fait exprès. Et ils ne donnent pas de sac plastique à la sortie. C'est eux qui inventent le petit jeton ou la pièce qu'on met dans le caddie pour le rapporter.
C'est dans les premiers à le faire.
C'est dans les premiers à le faire, hein, parce qu'avant, il y avait un ramasseur de caddie qui se promenait sur les parkings et eux ont coupé les coûts.
Ah oui, c'est pas pour qu'on vole pas le caddie, c'est pour qu'on le ramène.
C'est pas tellement pour qu'on le vole, parce que bon, pour un jeton ou pour un euro ou quoi, un marque à l'époque, c'est pas trop le sujet, mais c'est pour qu'on le ramène, en fait, pour éviter d'avoir des caddies qui traînent partout et d'embaucher quelqu'un pour les ramasser. Donc en fait, voilà, ils coupent absolument tous les coûts.
Il n'y a pas de hotline dans les magasins, on peut pas appeler.
Oui, il
n'y
a pas de hotline, on peut pas appeler pour avoir un renseignement, parce que comme ça permet d'économiser une standardiste. Enfin, et on oublie peut-être quelques-uns, mais c'est vraiment l'idée de couper absolument tous les coûts. Il n'y a aucun souci de l'expérience client, aucun souci du bien-être du consommateur quand il est dans le magasin. On est souvent assez entassé. Bon, c'est pas du tout une expérience d'achat enthousiasmante, mais voilà, ça permet d'avoir des coûts extrêmement faibles et ça marche très bien, d'abord en Allemagne et ensuite à l'international.
Donc le concept évolue petit à petit pour arriver à ça, mais comme tu l'as dit, dès le début, ça ressemblait quasiment à ça. Et il faut savoir que les économies qu'ils appliquent dans leur magasin, les frères Albrecht, ils décident même de l'appliquer dans leur société en général, au siège social, partout. Il y a des économies.
Oui, alors c'est un peu des maniaques du coupage de coûts. Hein. Donc le nombre de crayons ou de gommes qu'ont les salariés est calculé. Ils calculent le temps de séchage séchoirs à main dans les toilettes pour éviter d'user trop d'électricité. Ils ont des locaux, des bureaux qui sont totalement modestes et anonymes. C'est presque pathologique de leur part. Hein. Et puis même dans leur vie privée, quoi. Ils ont une forme d'avarice qui les pousse à couper absolument tous les coûts, toutes les dépenses. En fait, c'est un modèle de commerce, mais ça reflète en bonne part leur personnalité. Ils ont vraiment ça en eux, de toujours casser les coûts. Ils appliquent ça dans leur vie probablement privée, comme tu l'as dit, on ne sait pas trop les détails, mais probablement. Dans l'entreprise, dans les bureaux, dans les magasins, c'est vraiment une façon de penser qui leur est propre.
Évidemment, cela entraîne des critiques.
Oui, les critiques, c'est bien sûr sur la condition de travail, puisque évidemment, les caissiers, les magasiniers, enfin tout le personnel est payé au minimum et on leur demande le maximum. Hein, c'est pas des patrons, on va dire, rigolos qui essaient de mettre une bonne ambiance. Hein. Là aussi, sur la gestion des ressources humaines, c'est on casse les coûts au maximum. Et c'est la même chose sur les fournisseurs, où ils sont toujours très agressifs sur les prix vis-à-vis des industriels, des agriculteurs et autres. Donc voilà, j'ai envie de dire, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Quand on veut casser les coûts, ça implique le salaire minimum pour la caissière, ça implique le prix minimum pour le producteur, etc. Donc c'est vrai que ça entraîne aussi certaines critiques.
Et il faut savoir que la croissance d'Aldi, elle continue à grimper, mais ce qui va la freiner un petit peu, c'est plutôt une dispute entre les deux frères.
Oui, la freinée, en tout cas, l'a changé un petit peu, puisqu'il y a une dispute qui est de savoir s'il faut vendre ou pas des cigarettes dans les magasins Aldi. Donc il y a un frère qui est pour, qui dit oui, c'est super, on va élargir notre gamme, attirer une nouvelle clientèle. Et l'autre qui dit non, parce qu'on va... On va trop se diversifier et les gens vont plus trop comprendre qu'est-ce qu'on fait. On est spécialiste dans l'alimentaire, on devrait rester là-dessus. Et donc il y a une brouille entre les deux, assez profonde, et ils vont la gérer, on va dire, à l'amiable pour éviter qu'elle impacte trop la société. Et en fait, ils vont couper en deux l'entreprise.
Ils vont scinder l'entreprise en deux.
Ils vont scinder l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'il y a des Aldi, des fois avec des logos un peu différents. C'est toujours le même Aldi, c'est toujours le même nom, mais le graphisme des logos a un petit peu changé. Donc il y a un des frères qui prend la partie nord de l'Allemagne, un des frères la partie sud.
Donc Aldi Nord et Aldi Sud.
Aldi Nord, Aldi Sud. Et ensuite, ils se répartiront les différents pays du monde aussi. Il y a certains qui...
Oui, c'est ce que j'allais dire. Aldi, ça devient comme international. Comment ils font pour se répartir?
C'est un peu comme ils avaient fait avec le nord et le sud de l'Allemagne. Ils se disent, moi, je m'implante en France, toi, tu iras en Angleterre, aux États-Unis, ici ou là. Donc ils se partagent les marchés, en fait, pour éviter de se faire une concurrence qui serait néfaste pour les deux. Et donc Aldi devient en fait deux sociétés différentes, hein, qui ont le même nom, le même concept, des logos un tout petit peu différents, mais à peine, on reconnaît rapidement que c'est globalement le même concept. Et donc en fait c'est deux sociétés distinctes.
Ils ont été malins, parce qu'en fait ils ont d'abord pensé à la réussite de leur entreprise plutôt qu'à leur brouille.
Voilà, sinon c'est un divorce intelligent. Ils
n'ont pas fait comme les frères Dassler.
Ils n'ont pas fait comme les frères Dassler, donc Adidas et Puma, hein, où là ça a été une rupture brutale et dans la douleur, on va dire. Ce qui n'a pas empêché Adidas et Puma de devenir de très grandes entreprises. Mais là, effectivement, c'est un divorce entre deux frères, une séparation négociée dans l'intérêt des deux entreprises.
Dans l'histoire d'Adidas et Puma, c'est plutôt Adidas qui a vraiment bien marché. Et là, on va voir que leur divorce, vu qu'il est intelligent, le succès des deux sociétés est complètement similaire.
Oui, globalement, le développement d'Aldi Nord et d'Aldi Sud est à peu près le même. Donc en fait, on peut en conclure que vendre ou pas des cigarettes, en fait, ça n'était pas si important que ça. Et ça change pas la trajectoire de l'entreprise, en fait.
Et qu'ils avaient un peu le même talent, tous les deux, pour...
Oui, en fait, ils avaient le même concept, les mêmes idées. Ils avaient créé Aldi ensemble. Donc en fait, ils ont continué à appliquer les mêmes recettes chacun de leur côté. Donc les deux sociétés sont développées de manière à peu près similaire.
On en a parlé en intro de ce podcast. Il arrive un gros drame en 1971.
Oui, en 1971, donc Theo Albrecht est kidnappé sur le parking de ses bureaux, donc par des kidnappeurs qui veulent une rançon. Donc il est séquestré plusieurs jours. Donc évidemment la police le recherche. Finalement la rançon est payée, il est libéré. Les kidnappeurs sont arrêtés ensuite. Enfin, on va pas s'étendre sur tous les rebondissements, mais effectivement c'est un peu une, on va dire, une rupture dans leur personnalité qui était déjà assez réservée. Et là, les deux frères deviennent, on peut dire, quasiment paranoïaques. Donc ils se déplacent plus qu'en voiture blindée, ils vivent de manière secrète, ils laissent aucune trace d'eux, aucune photo, aucune adresse, rien du tout. Donc ils vont vraiment se renfermer sur eux-mêmes suite à cet enlèvement, Et comme tu le disais en intro, c'est pour ça qu'en fait, sur leur vie privée, leur personnalité, etc., en fait, on sait assez peu de choses parce qu'ils ont délibérément voulu mettre un écran de fumée autour d'eux pour éviter de futures attaques ou kidnappings.
Et c'était courant qu'on enlève des patrons comme ça en Allemagne ? Enfin, on pense plutôt à d'autres pays quand on pense à l'enlèvement.
Oui, c'est vrai. Alors courant, j'irais pas dire courant, mais c'était l'époque de la bande à Bader, des groupuscules, par exemple, d'extrême gauche. Et donc, il y a eu, dans les années 70-80, une série d'enlèvements ou de meurtres de grands patrons, de capitaines d'industrie ou autres. Donc, sans dire que c'était courant, il y a eu une période de relative insécurité pour les grands chefs d'entreprise allemands. Voilà, ce qui peut expliquer aussi une certaine discrétion de la part des milliardaires allemands qui sont peut-être moins bling-bling que les Américains ou autres. Ça peut aussi s'expliquer par cette période où il y a eu des enlèvements, des assassinats, et donc qui les a poussés à une certaine discrétion.
En tout cas, ça n'a pas freiné la poursuite du développement des deux sociétés en parallèle.
Non, donc ces deux sociétés qui ont inventé le hard discount, qui après s'être étendu en Allemagne vont attaquer d'abord le marché autrichien et puis ensuite l'ensemble de l'Europe et qui vont devenir les références du hard discount au niveau mondial.
Premier gros concurrent sérieux, c'est en 73 avec l'arrivée de Lidl.
Voilà, donc Lidl, donc créé par Dieter Schwarz, donc qui est un peu un enfant de la balle hein, puisque son père avait déjà un commerce, lui avait créé un supermarché suite à un voyage aux États-Unis, mais qui était un supermarché assez traditionnel. Et en fait, Lidl copie point par point Aldi.
Quand il a voulu faire du discount, il a dit « je copie ».
Ben voilà, il a vu le concept Aldi, il s'est dit « c'est génial, c'est ce qu'il faut faire ». Et il a fait la même chose avec Lidl. Donc les précurseurs du hard discount, c'est vraiment les frères Albrecht. Aldi, c'est un suiveur, hein. Il l'assume totalement. Il ne prétend pas avoir inventé le hard discount. Il a repris un modèle qui marchait et il a réussi à faire sa place. Hein. Et Lidl est devenu à peu près aussi gros que Aldi, mais c'est vraiment Aldi qui a inventé le concept.
D'autant plus que Lidl s'est ouvert plus rapidement, il s'est ouvert à d'autres marques, alors que Aldi restait vraiment sur des marques créées pour lui.
Oui, Lidl a fait un peu moins de hard discount, c'est-à-dire qu'ils font un peu de publicité, ce qui est impensable, on n'en a pas parlé, mais Aldi ne fait absolument pas de publicité, parce que la publicité c'est un coût. Donc Lidl a fait un peu de publicité, s'est ouvert un peu plus à des marques de distributeurs, là où Aldi était plus centré sur des marques hard discount. Donc Lidl c'est du hard discount, mais on va dire un peu moins hard que Aldi. Mais le fond est globalement toujours la même idée, hein, de casser les prix.
Les deux frères décèdent à très peu d'intervalle, 2010 et 2014.
Voilà, donc ils décèdent, au moment de leur décès, c'était à peu près les plus grosses fortunes d'Allemagne. Je dis à peu près parce que vu que leur groupe n'est pas coté en bourse, c'est difficile d'avoir une vision précise de cette fortune. Et en plus, comme on l'a dit, ils étaient très discrets. Bon, on estime qu'ils avaient à peu près une fortune de 20 milliards d'euros chacun au moment de leur décès, ce qui est à peu près la fortune aussi de Dieter Schwarz de Lidl. Donc en fait, ce concept du hard discount a fait des trois hommes parmi les plus grosses fortunes du pays.
Les sociétés, elles sont maintenant détenues par les descendants des frères Albrecht et elles poursuivent, évidemment, les deux Aldi poursuivent leur ascension.
Voilà, les deux sociétés poursuivent avec toujours la même stratégie de cassage de coûts, donc avec à peu près 10 000 magasins dans le monde. Donc c'est toujours Aldi et Lidl sont toujours les références, les poids lourds du hard discount dans le monde.
Et détail amusant, qui dirige maintenant Lidl ? C'est un ancien cadre d'Aldi.
Voilà, il peut y avoir des débauchages entre les deux sociétés, puisqu'en fait, ils font à peu près le même métier, l'un a copié l'autre, donc il y a des passerelles assez faciles entre les deux.
L'histoire des frères Albrecht nous rappelle un peu l'histoire, donc on l'a dit, des frères Dassler, qui étaient les fondateurs d'Adidas et Puma, et ça nous confirme que l'entrepreneuriat peut se faire en famille, mais il faut très bien s'entendre pour que cela dure. Merci Sylvain.
Merci Mickaël.
Je rappelle évidemment que cette histoire est tirée du troisième tome de ta série de livres « Entrepreneurs de légende » qui est édité aux éditions Hendrik B. Si vous ne les avez pas lus, allez-y, hein, parce que c'est vraiment du plaisir à lire. Vous pouvez évidemment réécouter tous nos épisodes sur toutes les plateformes audio ou sur CDI Podcast. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et on vous dit à très vite.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.